Salut, c'est Thomas de Claque. Ça me rappelle quelque chose cette intro. Bon, c'est pas grave. L'épisode que vous allez écouter a été enregistré en mars 2019. C'est-à-dire qu'à l'époque, Avengers Endgame n'était pas encore sorti et Patrick Bruel n'était pas encore accusé de harcèlement sexuel. Maintenant que l'épisode est replacé dans son contexte, je vous laisse en profiter pleinement. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Certains Lames. Non, c'est pas Certains Lames à chaud.
Ah, si, c'est Certains Lames à chaud quand même.
Ah. C'est claque.
Non, mais on n'est pas devant un ciné. Et puis, c'est qui tous ces gens d'abord ?
Certains Lames tièdes.
Certains Lames tièdes. Non, on est au festival, on peut dire festival, au week-end podcastéo.
Paris sous les pods 2.
Oh, le Paris sous les pods 2. Organisé à Paris par Podcastéo avec ben, plein de podcasteurs. C'est super génial. Salut les copains.
Salut.
Bonjour.
Coucou.
Et pour cette occasion, on fait un épisode spécial de claque de Certains Lames à chaud. Et bon, alors, certains l'aiment à chaud, certains aiment voir les films directement à la sortie, mais il y en a d'autres qui préfèrent prendre leur temps. Et comme nous, on aime bien Marilyn Monroe et Billy Wilder, il nous arrive de prendre 7 ans de réflexion. Mmh. D'où le titre de l'émission.
Magnifique.
Bravo. Wow.
Joli.
C'est beau.
La prochaine, ce sera L'amour dure 3 ans, non ?
Non, ça, on a dit Billy Wilder, pas Bec Bédé, s'il te plaît.
Ah, voilà. Donc nous reviendrons, vous avez compris, sur les films qui ont 7 ans, sur les films de 2012 et qui ont marqué l'année. Alors je suis Thomas de Certains Lames à chaud et avec moi mon camarade Thierry, salut Thierry.
Bonjour.
Et avec plein de podcasteurs que j'ai pas prévu tout le monde parce qu'il y en a qui sont venus ou pas, mais on les rajoute aussi, c'est pas grave. On commence par la première invitée, la plus grande j'ai envie de dire.
Tu dis ça en regardant ta bière, c'est inquiétant.
Faites sonner les trompettes pour Madame de Pompadour. Marquise des Qualitaires de France, première de son nom, gardienne du cubide rouge, renifleuse de particules, détesteuse de canicules, tricoteuse de plaides, destructrice de la création, lisseuse en basse vitesse, spectatrice en haute vitesse et Mother of Muscat.
Bonsoir, bonjour.
Voilà, on peut dire aussi pomme du roi Stephen, la menstruelle et Dr. Watt, mais...
Exactement. Et je tiens à dire que toute cette aristocratie me vient de Emmerich qui est aussi autour de la table.
Oui. Bonsoir.
Emmerich, salut Emmerich.
Salut.
Rappelle-moi ton podcast s'il te plaît, vite fait.
L'école des facs, le roi Steven, G7, Sky is the limit et je produis un podcast fait par un ours qui ne sait pas dire radiateur et ça s'appelle Gru.
Oui, d'ailleurs le poulpe joue avec lui là, Octave, Octave et Gru sont en train de jouer à côté au studio enfant. Ouais. On fait le tour de la table encore, on continue par qui ? Je t'en prie.
Flavien. Salut.
Comment ça va ?
Ça va. Quel viens un peu squatter.
Tu viens squatter, mais aucun souci. Tu es le bienvenu, tout le monde est bienvenu autour de la table de Claque. Quel est ton podcast ?
Podcastorama, je fais partie de Proxy Jeux et autres divers et variés.
Ok. Thierry, on l'a vu. Shibani.
Shibani, du podcast Parents Blabla. Je suis venu m'incruster parce que le sujet me plaisait.
Tu aimes les films ?
Tu aimes les films.
Et enfin, on a un spectateur qui viendra...
Un deuxième squatter.
Non, mais il vient. Il est autour de la table, alors il vient, il se présente.
Bonsoir.
Ça
me présente en plus.
Tu es Damien, tu veux changer le monde ?
Voilà. Non, on en a marre de ce film. Je vais plus venir à vos enregistrements, en fait, les mecs. Parce que si à chaque fois on parle de ce film-là, je me casse.
On a prévu une liste spéciale si tu étais là.
Très bien.
Donc, Flavien...
Non, moi, c'est Saeptem. Mais Flavien, si tu veux... C'est le thème de Slate.fr, disons ça, voilà. Mais je suis juste en public, ne me faites plus parler maintenant.
Ok.
Je ferai juste les.
D'accord.
Tu feras les bandes son
à
la
bouche. Tu feras là. Alors, bon, il y a eu plein de films en 2012. On va pas parler de tous les films de 2012. On en a sélectionné quelques-uns. Ceux qui ont fait parler d'eux, parce qu'ils ont été marquants au niveau des entrées, surtout essentiellement, parce qu'il a fallu faire un choix.
Ouais, moi j'ai compris que c'était pas par leur qualité.
C'était pas forcément par leur qualité.
Non, je ne suis pas d'accord.
Il y a les recos à la fin pour ça. On en parle après. Alors, on n'a pas mis The Artist non plus, même s'il a eu l'Oscar cette année-là et qu'il a tout raflé, parce qu'il est sorti l'année d'avant. Mmh. Voilà.
Tricheur.
Merci.
C'est les sorties françaises que t'as pris ?
Donc on a pris le numéro 1 au box-office mondial, le numéro 1 au box-office français et un film français qui a marché au box-office, qui est top 10 d'ailleurs, mais qui nous a plu. Enfin, qui nous a plu un peu plus que d'autres du top 10.
Donc on va pouvoir vous juger.
Vous pourrez nous juger.
Exactement.
On commence tout de suite avec le plus gros carton de l'année 2012. Une année riche en blockbusters. Il a battu Hunger Games, Twilight 5 deuxième partie, L'Âge de Glace 4 et même Batman Dark Knight Rises.
Bon, allez, moi,
Il s'agit d'amour de Michael Haneke.
Si seulement.
Il a raflé 1,5 milliard de dollars de recettes. C'est Avengers, premier du nom de Joss Whedon. Alors là, au montage, il y a les Avengers qui me disent Iron Man, Hulk. Alors ça tombe super bien parce qu'il y a le Avengers 4 qui va sortir en même temps. Qui va sortir là d'ici quelques semaines.
Endgame.
Voilà, alors on a Marvel avec une armada d'acteurs, hein, Robert Downey Jr. en Iron Man, Chris Evans en Captain America, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth en Thor, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Tim Hiddleston, bon, l'air Loki.
Tommy Hiddleston, c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. Tommy
Hiddleston. Et encore, motherfucker, Samuel L. Jackson, Nick Fury, mon préféré de tous, je suis désolé. C'est le meilleur des Avengers.
Tu l'as vu mourir dans le trailer de Endgame? Non.
Moi, j'ai pas vu le trailer cachée. Parce que je veux pas être spoilé.
Il a disparu à la fin de.
Bon, bah, oui. Ah, bah, tu vois. Mais,
je ne regarde jamais les trailers. Ça dit beaucoup trop de choses.
Beaucoup d'acteurs donc.
On ne meurt jamais vraiment dans un Marvel. Sachez-le. Il n'y a que la fin de votre contrat qui peut vous tuer. Alors, faut-il vraiment résumer le film, résumer l'histoire? Le dieu Loki dérobe un artefact magique d'une grande puissance, le Tesseract, capable d'ouvrir un portail pour qu'une armée d'extraterrestres déferle sur notre bonne vieille Terre. Nick Fury décide alors d'activer l'initiative Avengers et regroupe tous les super-héros pour faire face à la menace. Est-ce que pour vous, les amis, ce premier volume, ce premier volet des films Marvel méritait un tel succès? Aussi colossal.
Ah, carrément.
Ah bah, ouais. Quand même, enfin, c'est déjà la fin de la phase 1, c'est ça?
Oui,
c'est
ça.
Alors, je ne suis pas un expert, je vous invite à éviter à écouter les clairvoyants ou autres podcasts sur le Marvel Cinematic Universe pour plus de précision. Mais en gros, ça constitue quand même l'apogée d'une époque du MCU qui a été introduite avec Iron Man, avec Captain America, etc., avec Thor. Et là, c'est on réunit tout le monde et puis on fait tout péter. Donc déjà au niveau, grosses attentes en termes de marketing, et en termes de... On veut que ça fasse de la thune. Et... un succès évident quoi, enfin au box-office, vu que les films précédents étaient déjà des succès, là que ça ne fasse qu'amplifier, ça c'est relativement logique, mathématiquement parlant.
Alors est-ce que ça méritait d'être au maximum? J'ai pas d'avis sur la question. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup aimé le voir à l'époque, j'ai beaucoup aimé le revoir, parce que je l'ai revu exprès pour ça. Par contre, cette fois-ci, comme la fois d'avant, j'aurais été incapable d'en parler, là tu viens de faire le résumé, je me souvenais pas du tout de l'histoire. Ouais, donc c'est à chaque fois un film que j'ai adoré consommer sur le moment, mais dont je suis incapable de parler après parce que je m'en souviens pas.
Le gros atout d'Alzheimer, tu regardes 15 fois le film.
Non, mais... Et en fait, c'est un truc qui m'arrive avec quasiment tous, pas tous, mais quasiment tous les Marvel. Sur le moment, j'aime les voir ou pas, certains j'ai pas aimé, mais quoi qu'il arrive, après je sais pas en parler.
C'est parce qu'il y a trop d'intrigues.
Ouais, c'est
ça, c'est trop compliqué.
C'est ce qu'on reproche souvent au film Marvel, c'est un film fast-food finalement.
Exactement, c'est un Big Mac, c'est trop bon à manger, mais une fois que t'es sorti du McDo, bon bah t'as déjà oublié que tu venais de bouffer.
Et surtout, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que tu passeras un moment divertissant sans trop te creuser la tête.
Non, des fois c'est de la merde. Tu relaxes. Bon.
Le spectateur veut parler.
Je veux juste signaler que, étonnamment, cet Avenger-là, qui est donc le premier, il y a eu quand même beaucoup de films ensuite, c'est peut-être le seul où il y a des. Enfin, en tout cas, c'est celui où il y a le plus de répliques dont on se souvient après. Parce que Avengers 2, personne, je pense, peut citer une réplique de celui-ci.
Captain.
Alors que voilà. À un moment, ils disent Hulk. Voilà. Non, alors que dans le premier, il y a We Have a Hulk justement et Hulk c'est mon secret, c'est que je suis toujours énervé. Les deux trucs un petit peu. Genre,
Hulk, qui est un peu le perso du film. Non, moi, parce que tu parles, on a un Hulk. Moi, j'ai la scène où il chope Loki.
Oui,
Loki fait je suis un dieu. Il chope Loki, il le balance dans tous les sens comme une carpette.
Ah non, bah c'est surtout le premier vrai film où on a le Hulk tel qu'on l'a toujours imaginé. En fait, moi, ce que je trouve assez intéressant dans celui-là, c'est que c'est. Enfin, là, c'est marrant parce que, justement, on en parle maintenant. On en parle maintenant avec la déferlante de. Il y a eu plein de films Marvel et compagnie, sauf que ça, c'est à peine 10 ans, en fait. Je veux dire, là, je veux dire, en tout, on a la fin du premier cycle là, qui va se terminer.
C'est 2008, je crois, et le premier Iron Man.
C'est 2008, ouais, donc ça fait 11 ans, tu vois. Du coup, c'est très court et on en parle comme si ça faisait 40 ans qu'ils déblatéraient des films parce qu'ils en ont sorti quand même 23 en 11 ans. C'est beaucoup trop. Et à la fois, c'est aussi sacrément impressionnant d'avoir réussi à faire ça. Sauf que là, maintenant, on parle de la recette en boucle, c'est toujours les mêmes intrigues, on s'y retrouve facilement, on le consomme de la même manière, sauf que quand ils ont sorti celui-là, c'était le premier vraiment à proposer ça. Les autres étaient des origin story qui se consommaient pas de la même manière et c'est le premier truc où ils ont dit ok, on va tous les mêler ensemble et on va faire une intrigue où on va ramener des trucs qui sont hors de leur univers. Et du coup, c'est là, c'était un ça passe ou ça casse quoi. C'était soit ça donnait quelque chose où tout le monde allait adorer voir tous ces persos à l'écran et ils pouvaient balancer leur univers tranquille, soit ça allait pas du tout passer. Et en ça, pour moi, je trouve que ça passe plutôt bien. Je suis très content qu'il s'est mis Joss Whedon à la réal parce qu'on sent vachement sa patte. Et c'est presque le dernier, avec un autre que on parlera peut-être après, que je défends beaucoup, mais que personne n'aime visiblement. C'est peut-être le dernier que je trouve très regardable dans l'action.
Et c'est quoi l'autre ?
À part à la limite le deuxième Avengers réalisé par lui, c'est Iron Man 3 que j'aime beaucoup. Mais sinon, ouais, en fait, Marvel après a décuplé sa recette jusqu'à foison, mais engager des Yes Man à partir de là, qui, à part Shane Black justement, sont juste contentés de faire le taf souvent comme ils ont pu. Et ne savent pas filmer ça parce que c'est pas des réels d'action pour la plupart et qu'ils se retrouvaient un peu en mode de toute façon il faut faire le taf, fais-le vite. Et Whedon, c'est un mec qui savait déjà faire le taf, qui se débrouille plutôt bien. Voilà.
Et qui a un vrai talent pour mêler humour et enjeu. Et enjeu.
C'est
en
ça,
jeu,
on revient sur les répliques où c'est super bien écrit, ça se répond pas mal, il a le côté opéra qui marche vachement bien et ouais, il sait rythmer autant son action que ses répliques. Quoi.
Coup, ce qui m'avait marqué, c'est la scène du combat dans New York avec le faux plan séquence. Qui finit sur tous les Avengers ensemble, c'était vraiment le, ouais, comme vous disiez, l'aboutissement de la phase 1. C'est ça, et je pense que c'est ça qui fait que ça marche, quoi. Joss Whedon qui est très bon dans ce qu'il fait, et le fait que ce soit vraiment l'aboutissement de.
Et puis le cast qui commence à être habitué aussi, quand même, à incarner ces personnages-là, et qui du coup sont de mieux en mieux dans leurs personnages, j'imagine.
Et puis le Hulk.
Oui, le Hulk. Mais après, parce c'est une recette qui marche bien. Pourtant, en comics, le fait de réunir tous les personnages, c'est un truc habituel.
Là, on parle en tant que Français, mais aux États-Unis, ça, à la limite, ils ont peut-être été moins surpris. Mais nous, on n'est pas forcément habitués. On n'est pas des immenses lecteurs de comics non plus. Ça reste énormément des lecteurs de niche. Donc, se dire qu'on va faire un film où on va réunir tout le monde comme ça, pour le public de cinéma français, même le public qui mate des blockbusters, c'est pas une grande évidence, quoi.
Alors, je préfère prévenir, je risque de parler de super-héros de manière générale et pas forcément de Marvel, ouais. Parce que Marvel DC Comics, je les confonds. Je préfère prévenir, en fait, là c'est... maintenant,
mais on a
attention.
Souvent tendance à les confondre, ils se copient Warning. Souvent mutuellement
non,
hein, sur
c'est...
les thématiques.
Je voudrais pas heurter la sensibilité de certains, voilà, sachez-le. Donc, moi j'avais pas vu beaucoup de films de super-héros avant. Peut-être j'avais vu, donc ça je sais que c'est pas Marvel, j'avais vu un Spider-Man que j'avais pas du tout aimé. J'avais vu peut-être les
Spider-Man,
les Fantman.
Comment ça se
c'est Marvel mais par Sony.
Hein
Spider-Man c'est Marvel mais par Sony, ouais. Produit par Sony.
Ah, c'est du Marvel Spider-Man.
C'est un personnage,
oui.
c'est un personnage.
C'est pas un DC.
Non.
J'avais prévenu.
C'est
voilà.
Le personnage est d'ailleurs maintenant intégré, tu vois, dans les films du MCU, il est dedans.
Mais ouais, putain. En plus,
d'ailleurs,
oui,
Avengers était déjà Marvel avait déjà été racheté par Disney quand Avengers est sorti.
Oui, bien sûr, parce que c'est eux qui ont amorcé le MCU de toute façon.
Et donc du coup, j'avais vu les X-Men. Voilà, j'avais vu quelques-uns comme ça, mais sinon je connaissais pas plus que ça, parce que c'était un truc de garçon, les super-héros. Alors moi, je connaissais pas trop. Bref, j'étais allé voir celui-là et en fait, j'avais adoré la touche humoristique du film à laquelle je m'attendais absolument pas. Je m'attendais à un truc serious business avec des mecs avec des gros muscles qui se tapent dessus. J'avais adoré Scarlett Johansson, alors que c'est une actrice que je n'aime pas d'habitude, qui m'agace.
Elle
et
a
là...
une scène d'introduction badass.
Mais voilà, putain, là je l'ai vue. Et sur le coup, en fait, je l'aime tellement pas d'habitude que sur le coup, j'ai pas capté que c'était elle. Alors qu'elle n'est pas déguisée, on voit que c'est elle. Mais j'ai tellement aimé ce personnage que j'ai pas capté que c'était Scarlett Johansson. Et voilà, donc j'avais eu vraiment un coup de cœur pour ce film parce que c'était drôle, parce que... ça se prenait pas trop au sérieux non plus. Il y a des grosses scènes de bagarre comme dans tous les films de super-héros, mais je sais pas, il y avait quand même un côté léger malgré tout que j'avais trouvé vraiment chouette.
Scarlett qui incarne donc la Black Widow, qui aura un film aussi a priori, ou une série selon, on verra dans la phase suivante, enfin qui viendra après Endgame.
Oui, il a fallu attendre le succès de Wonder Woman et Captain Marvel quand même.
Alors que c'est un sacré personnage Black
Widow.
J'ai l'impression qu'ils avaient du mal à la caser et qu'ils savaient pas trop quoi en faire de Black Widow.
C'est clair que depuis quelques films, à part être avec un flingue dans le champ au fond et tirer, je fais plus grand chose quoi, c'est dommage.
En revoyant Avengers justement pour la préparation, j'ai vu sa scène d'intro, elle tabasse 5 mecs attachés à une alors qu'elle est attachée à une chaise, c'est un truc incroyable quoi. Elle manipule tout le monde et je me suis dit mais c'est vrai que ce personnage est super fort.
Mais il y a eu le film Black Widow, ça s'appelle Red Sparrow avec Jennifer Lawrence.
Non, quand même. On se souvient pas qu'elle soit aussi balèze et dans le reste de la série, j'ai l'impression que c'est un personnage qui a été oublié. Quoi.
Et elle est pas uniquement une grosse tabasseuse de mecs, super ninja, ce qu'on veut. On l'a vu aussi avant ça dans les Iron Man, où elle était plus le côté agent secret, espion, à faire passer pour quelqu'un d'autre, à trafiquer son CV, ses données, etc. Il y a aussi ce côté-là peut-être qui sera abordé dans le film s'il y en a un.
Après le problème c'est qu'elle est super badass mais à côté il y a des mecs qui génèrent des éclairs quoi.
Oui.
Donc c'est un peu
elle est que humaine.
C'est pour ça qu'on l'oublie un peu potentiellement comme le type qui
après,
tire des flèches.
Après pendant Avengers il y a deux fois elle fait des interrogatoires assez balèzes justement quand elle est attachée à une chaise elle fait parler les gars qui sont censés l'interroger et aussi
après,
elle arrive.
Elle leur défonce la gueule.
Et après, elle réussit à prendre des informations à Loki, qui est censé être le dieu de la tromperie, quand même. Mm. Bon.
Non, par contre, après, au-delà de ça, elle a.
Un beau petit cul et des gros seins, c'est ça.
Et elle joue le rôle de la femme, c'est-à-dire que c'est celle qu'on envoie à qui qu'on envoie parler à Hulk pour le calmer, pas trop l'énerver machin. Ouais.
Après, elle devient carrément l'intérêt amoureux de Hulk.
En plus, il me semblait bien qu'il y avait ça après. C'est horrible, je les ai tous vus les Avengers, je ne me souviens d'aucun.
La relation est pas en couple, c'est pas aussi stéréotypé que ce qu'on pense, mais elle ne devient vraiment que ça. Ça devient un personnage fonction pour Hulk.
Et la grosse différence peut-être qu'il y a entre cela et ce qui vient, c'est Joss Whedon en fait. Joss Whedon a l'habitude de faire des femmes qui sont fortes, Buffy, machin truc, et ensuite une fois qu'il ne le fait plus, qu'est-ce qu'elle est devenue? La meuf qui calme Hulk, alors que dans les films précédents, c'est la meuf badass qui trompe Loki.
Il y a un truc qui est passé quasiment complètement à la trappe par la suite, c'est sa relation d'amitié avec Hawkeye.
Mais tu crois pas que c'est juste Hawkeye qui est passé à la trappe, si on va pas.
Oui,
oui, ça aussi. Ouais.
En fait, c'est un peu tous les deux, ils sont passés à la trappe, quoi. Mais
Hawkeye, je me disais, c'est qui Hawkeye? O-K-A-I.
C'est le mec. Oui, c'est le placement de produit.
C'est le mec avec un arc.
Le mec avec un arc.
C'est le mec de Black Widow.
Non. Enfin, c'est son pote.
Ah, pas du tout.
Alors, à un moment donné, dans la description, alors je sais plus lequel, parle d'un couple de tueurs à gages.
C'est sous-entendu. C'est sous-entendu, mais plus tard, ça pose à.
Et c'est
confusion.
Là que je me suis dit, mais il n'y avait pas un truc entre elle et Hulk, alors peut-être qu'après, du coup, les deux, ils se séparent là, puis peut-être il y a un truc avec Hulk.
Et Hulk, après, avec Hawkeye, c'était peut-être avant. Enfin, c'est peut-être un truc.
Après, comme ce sont deux persos mis de côté.
Ils sont juste humains.
Après, il y a aussi le côté, ça rejoint un peu ce que vous disiez sur le côté humoristique, mais c'est aussi un film de potes, quoi. Enfin, moi, ce qui m'a plu dedans, effectivement, l'intrigue, j'en ai rien à foutre. Les scènes de baston sont impressionnantes et bien foutues, mais c'est pas ce qui me marque, c'est plus le côté presque film de campus, en fait, où c'est les différentes personnalités qui se répondent, qui ont vraiment tous leur identité, mais où ça match, quoi, où il y a des petites piques qui s'envoient, et je trouve qu'il y a vraiment ce côté bande qui fonctionne vachement, quoi, et qui est pas forcément facile avec autant de grosses figures de super-héros et d'acteurs aussi importants aussi parce que c'est des super-héros mais c'est aussi les acteurs qui les incarnent et je trouve que tout ça passe vachement bien et moi c'est vraiment ce que je retiens quoi le côté presque film d'étudiant quoi de campus quoi
c'est carrément un body movie en fait ouais. Enfin dans le dialogue en tout cas
t'as et la construction de cette relation
le début de la bande
c'est ça dans le film la construction de cette relation parce qu'on les colle tous ensemble dans une salle en leur disant faut sauver le monde au début ils se mettent à moitié sur la gueule
ah ouais
parce que
Et la question pour ceux qui l'ont revu récemment, est-ce qu'il a bien vieilli ? Moi, je me souviens par exemple, un truc qui m'a surpris, c'est que j'ai vu un mec en costume. Alors que dans un Marvel, maintenant, il n'y a plus de costume, c'est des effets numériques dans tous les sens.
Oui, mais
ça
oui,
m'a
oui.
fait bizarre.
Enfin, oui, il a bien vieilli, j'ai adoré le revoir, même si, comme je te disais, je suis incapable de dire de quoi ça parle.
Le costume de Captain America, par contre, il est un petit peu.
Oui.
Il fait vraiment toc.
Moi, je me suis refait le MCU pour remettre à jour ma femme, en fait, qui voulait découvrir.
T'as upgradé ta femme.
C'est une mise à jour qui s'est bien passée.
Ça s'est super bien passé. Elle a
planté.
Adoré. Je sais plus quel film on avait regardé en premier, puis ensuite on les a repris tous dans l'ordre. Et moi, j'ai adoré le regarder, celui-ci. Autant le second, après, un peu moins, mais celui-ci, ouais.
Moi, j'ai pas eu l'occasion de le revoir, mais je trouve que c'est aussi un marqueur. Moi, je l'avais pas vu, j'avais pas vu les autres films du MCU avant, et je trouve qu'il se tient quand même à peu près, même si ça aide. Depuis, il y a eu, regarder Avengers Endgame aujourd'hui sans avoir rien vu de ce qui s'est passé depuis Avengers, je pense que ce sera un peu plus chaud que de voir Avengers à l'époque sans Captain, sans Iron Man et compagnie, quoi.
Ok, bon, bah donc on le garde encore dans notre bibliothèque, dans notre vidéothèque plutôt.
Si j'ai une question, alors parce que comme je les vois pas tous les films de super-héros, ça se fait encore les bagarres finales où t'as des millions de morts dans une ville ou pas ? Parce que là, clairement, vu la bagarre finale, c'est impossible qu'ils aient réussi à tout.
Dans un film titré Avenger, oui, obligé.
Ah, ça se fait encore, mais c'est devenu un enjeu social dans l'un des films d'ailleurs. C'est pas très bien mené, justement, il se pose pas mal cette question du est-ce qu'on doit accepter ça ?
Parce que sans trop spoiler Captain Marvel, ils ont le bon goût de faire l'un des plus gros combats en plein désert.
Alors dans le deuxième Avengers, si je ne dis pas bêtise, c'est un point complet du combat final. C'est justement, ils veulent sauver les civils plutôt que de se tataner avec les méchants.
Ouais.
C'est là où il y a une ville entière qui se surélève.
Pour sauver une ville, il faut la surélever.
Ça, c'est le débat autour de Civil War où justement, tu as le gouvernement qui s'en mêle en disant on ne peut plus laisser des mecs se tabasser comme ça parce qu'ils sont trop puissants par rapport à tout ce qui se passe autour. Quoi. Bon, donc, du coup, on fait un combat sur un tarmac d'aéroport et ça rend plus beaucoup.
Ouais, parce que ça part dans tous les sens à chaque fois qu'ils sont dans l'action, quoi.
Ok.
C'est quand même temps, c'est difficile de pas penser au collatéral dans ce moment.
Mais c'est un sujet qui a pas été abordé directement pour Marvel. C'est un reproche qu'on a fait beaucoup sur le premier Superman.
Mais putain, mais tellement, j'en avais marre. Hein.
Et d'ailleurs, du coup, quand Marvel a sorti ensuite son Avengers 2 ils font justement ce truc, attention, il faut pas tuer les mecs. Et pareil pour Batman, tu le vois genre en mode, ah merde, j'ai merdé, c'était horrible. Là, tu
My bad.
ça c'est un bon point de... Alors là, on parle de DC pour le coup, de Batman contre Superman, quand on voit la scène vue des humains, quand justement, quand des super-héros se battent, voilà ce que ça donne. Ouais. Et, c'est pas bien. Ouais. Enfin, c'est flippant, quoi. Il m'a plus de tombe sur la gueule, c'est pas cool. Alors, Avengers a écrasé le box-office mondial dans tous les pays ? Non. Car vous le savez, il existe un village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. La cohorte en collant Marvel n'est arrivée que sixième sur nos terres gauloises, derrière la Vérité Sigeband 3 et sur la piste du Marsupilami.
Parfait. Les deux films dont nous allons parler tout de suite. Non,
Alors, on va se calmer avec l'exception culturelle française, parce que le premier du box-office français, c'est quand même une production internationale. Un seul homme pouvait tenir tête au héros numérique en collant de Marvel. Celui qui incarne l'élégance so british, le séducteur irrésistible, mais aussi le machisme du XXe siècle. J'ai nommé James Bond.
Ta-da.
Avec Skyfall. Alors bon, Adèle devait chanter en fond, donc peut-être que j'ai monté Adèle en fond. Voilà.
Tu peux plutôt mettre le générique.
Alors ça, je le ferai pas par contre, tu vois.
Non, bah, alors oui, non, mais la musique, je vais mettre. Il y a Skyfall qui passe là au moment où je parle. Voilà. Ok. Qui a fait un carton aussi dans les charts. On entendait ça partout à la radio en boucle.
Beaucoup trop.
L'espion britannique a engrangé 7 millions d'entrées dans l'Hexagone.
Joli.
Joli.
Un Français sur 10.
Il
n'y
avait pas la mienne d'entrée.
Ah.
Je tiens à le dire.
C'est quand même 10% de la population. C'est pas mal.
C'est bien. Un épisode sombre réalisé par Sam Mendes avec Daniel Craig dans le rôle titre, Julie Dench en M de toujours, et l'arrivée de Naomi Harris en Moneypenny et Ben Whishaw en Q, avec Javier Bardem en méchant peroxydé machiavélique.
Alors qu'en fait, on sait tous que c'est Lynn Renault qui jouait le rôle de M.
Yep, un petit air.
Une mission qui tourne mal, la liste des agents infiltrés de l'OTAN entre de mauvaises mains, le siège du MI6 attaqué, Bond et M remis en doute et poussé vers la retraite, un épisode crépusculaire. Skyfall vous a-t-il séduit ? Je rappelle qu'en tant que bande de 00, vous avez le permis de tuer.
Tu vois la critique du film ?
Je veux bien commencer, si vous voulez. Bon. Alors moi, je ne l'ai pas vu à l'époque, je l'ai découvert exprès pour ce podcast. Parce que j'ai fait mes devoirs, j'ai essayé de revoir les films exprès. James Bond, j'ai jamais été ultra fan. Daniel Craig en James Bond me fait vraiment pas rêver. Donc voir Skyfall, c'était vraiment pour vous. Donc je l'ai revu lundi ou mardi, je sais plus. Dans des conditions un peu particulières, mais qui m'ont fait aimer le film. Alors, il faut que je vous raconte.
Comment étais-tu vêtu ?
J'étais en pyjama dans mon lit. On a un chan de discussion podcastéo, où on est nombreux.
Vous
et de temps en temps...
Si vous avez des questions sur les podcasts.
Non, il faut faire du podcast pour y venir.
Oui, ah oui, il faut faire du podcast.
Il faut être dans le podcast.
Et après, si vous avez des questions, une fois que vous avez raté votre lancement, vous pouvez venir.
Et donc, il y avait des gens en vocal. Ils étaient en train de jouer un jeu vidéo tous ensemble. Et donc, on se parlait en direct, pas par écrit. Il y avait entre autres Emmerich dans ce vocal.
Vous jouiez à quoi ?
Apex.
À Apex. Et donc, moi, ça m'arrive le soir, quand je suis toute seule, de me connecter, de les écouter, puis de papoter avec eux. Et donc, j'ai lancé Skyfall à ce moment-là. Et donc, en vocal, j'avais dans les oreilles les gars qui discutaient avec lesquels je papotais. Le film durait 2h30, j'avais pas 2h30 devant moi, donc je l'ai mis en x1,5. Et en même temps, je parlais avec mes meilleurs potes par écrit sur le téléphone. Et de temps en temps, d'ailleurs, j'ai switché de page. Enfin, j'avais l'écran et puis j'avais une page Wikipédia ou autre quand on parlait d'autre chose. Et donc, je l'ai vu dans ces conditions-là et j'ai beaucoup aimé ce film. C'est-à-dire qu'un James Bond, t'as pas besoin d'avoir les paroles pour comprendre l'histoire. Alors, il te manque certaines subtilités, je suis d'accord. J'ai appris quelques trucs après, effectivement, bon voilà. Mais l'histoire, elle est simple. J'ai pu bien voir tout ce qui était mise en scène, les choix de j'en sais rien, d'images, de couleurs, de photographies, de chorégraphie de certains combats, la musique. Et je pense que tout ça m'aurait fait chier en 2h30. Alors que là, j'ai vu que ça, parce que j'entendais pas ce qui se disait. Et j'ai vraiment aimé cette partie-là du film. Donc faites comme moi.
Du coup, un souci de montage.
Mais ouais, 2h30. Mais non, mais les films de 2h30, c'est chiant. Et puis James Bond, bon voilà, on connaît. Il y a juste un truc que j'ai pas compris, c'est la meuf, là, la brune. On la voit 4 fois. D'abord, quand ils échangent le premier regard. Ensuite, quand ils se touchent la cuisse. Ensuite, quand ils baissent sous la douche. Et après, quand elle se prend une balle entre les deux yeux. Mais je sais pas ce qu'elle fout là, qui elle est, pourquoi elle est là.
La victoire commune d'une voilà. James Bond girl. Ouais.
Exactement.
À la première,
ah, au
vite.
Premier échange de regards, j'ai su qu'elle allait mourir, baiser et mourir juste après.
Peut-être en même temps.
Vous parlez de la française, c'est ça ?
Ouais. Ouais. Bon voilà, c'était mon expérience de Skyfall. J'espère que ça vous a plu. À bientôt, à la prochaine.
Bien, donc en une fois et demie, ça passe bien. Alors c'est dommage.
En faisant autre chose.
Et sans le son.
Sans le son.
Et sans le son, voilà. Bon, bah, c'est
The Artist, cool. En
alors
fait.
Alors si, il y avait le son puisque j'avais la musique. J'ai pu profiter de la musique et le générique est comme dans beaucoup de James Bond, magnifique.
Alors bon, je vais pas me vexer, mais moi je trouve que c'était un des meilleurs récents. Mais je vais vous laisser parler. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Qui prend la parole?
Alors, j'ai trouvé que c'était vraiment le meilleur de la trilogie. Enfin. C'était le troisième ?
Ouais, c'est le troisième de la trilogie Daniel Craig.
C'était le troisième.
De là, c'est plus une trilogie maintenant, mais.
Et je me suis dit que ça fait déjà. Enfin, là, je réalise, ça fait 7 ans. Je l'avais déjà trouvé un poil vieux à l'époque. J'aime pas les vieux les James Bond où l'acteur est un peu trop vieux pour le rôle. Je trouve que ça colle pas. Et je me disais que ça faisait une très très belle conclusion et ça aurait pu être le moment de changer d'acteur. Bon, après, ils en ont fait un autre. Et j'ai vraiment adoré le côté vraiment très sombre de ce film. Le premier Casino Royale était déjà différent des James Bond auxquels on avait été habitué. Et là, encore une fois, ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire un James Bond qui recasse les codes tout en introduisant des éléments classiques de la série. Donc ouais, un de mes préférés, je pense, de tous les James Bond, même quand on rajoute celui de...
Pierce ?
Non, celui de George Lazenby. Ah.
J'aime bien celui de George.
C'est lequel ?
Au service de sa... Non, c'était... Si, c'est au service de sa majesté.
Je crois, oui.
Ouais. Mais il est tellement ignoré, celui-là.
Shibani.
Ouais. Pour ma part, je l'ai beaucoup aimé aussi. Comme dit Emmerich, j'ai bien aimé le côté on casse les codes. C'est pas juste il y a un méchant quelque part, on va aller lui botter le cul, on revient, on a gagné, etc. En cours de route, on va rencontrer des filles. Voilà, il y avait une autre intrigue, je trouve. Tout le MI6 est complètement en branle. Il y a un méchant... Enfin. Sans spoiler, hein, bien sûr, mais voilà. Dans l'idée, je trouvais que l'intrigue changeait un peu de la quantité de James Bond qui était, voilà, on y va, on casse la gueule aux méchants, on revient, fin de l'histoire. J'ai bien aimé aussi la manière dont il était tourné, les scènes d'action étaient assez sympas. Voilà, en gros, après, Daniel Craig, j'ai jamais apprécié de le voir en James Bond. C'est le bonhomme, c'est comme ça, Vladimir Poutine en James Bond, ça le fait pas.
Que ce soit allemand, soit russe.
Mais voilà, c'est... pour moi, il n'a pas le profil de l'anglais.
Il fait brut, quoi. Ouais.
Voilà, il fait brut, il fait soldat, mais pas espion. Donc voilà.
Oui, il ne fait pas espion smart, sous British.
Voilà, il ne fait pas le British Pépi, comme on connaît. Voilà, c'est ce côté-là qui manque, quoi.
Thierry ?
Alors, je rejoins sur plein de trucs et je vais nuancer sur d'autres. J'aime beaucoup Skyfall, même si j'avais des choses à lui reprocher les premières fois, donc on l'a revu cette semaine. Il y a un élément que je retire de mes reproches et un autre que je conserve. Là où je ne suis pas d'accord, c'est pour Daniel Craig en James Bond. Je trouve que c'est la meilleure idée qui soit rêvée à ce personnage depuis toujours. Oh. C'est mon Bond préféré, Casino Royale est mon Bond préféré, parce que justement, Craig casse tous les codes. Et pour casser les codes, il fallait quelqu'un d'autre. Il fallait virer ce flegme à l'anglaise qui drague tout ce qui bouge et compagnie. Et pour justement casser ça, eh ben, il fallait quelqu'un de bourru, quelqu'un qui soit plus vif, quelqu'un qui soit plus écorché. Et on ne pouvait pas avoir ça avec un acteur qui aurait été plus maniéré. Ou alors, ça aurait été... Peut-être mal année. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un immense choix de casting.
Ça devenait caricatural à la fin.
Ouais. Ça devient caricatural, mais
pour d'autres... Il est encore jamais exposé les boules. Hein.
Les Pierce Brosnan et ce genre de choses. Voilà.
J'aime beaucoup la mise en scène de Skyfall parce que Sam Mendes, ça m'a fait beaucoup penser au Sentier de la Perdition. Donc c'est un film qui a un énorme ventre mou entre scènes d'action, mais avec un côté très classe, très sombre, très crépusculaire, comme tu l'avais dit. Après, voilà, moi, les deux choses que j'avais reprochées, c'était juste un élément de montage dont on a discuté, mais qui au final est hyper intéressant. C'était que, donc, on peut parler de la trame du film. Première scène d'action, Bond passe pour mort, il disparaît, il revient un petit peu après, et en fait, on voit des scènes où il vit sa vie sur une petite île pépère et où il voit un reportage où il dit « Ok, je reviens ». Et pour moi, toute cette scène-là, c'était horrible. En fait, je ne comprenais pas pourquoi on faisait ça. Et pour moi, il devait réapparaître à un moment donné pour avoir un effet de surprise. Et au final, c'est ce que tu me disais, et je te rejoins là-dessus, c'est qu'on a un côté déchéance du personnage total. On voit que le gars, au final, quand il est tout seul, il vit aussi dangereusement. C'est un clampin qui n'a rien à faire de sa vie, qui n'a rien à raconter, qui n'est pas intéressant. et qui n'a que ça en fait.
Et le film veut détruire l'image, ce qui reste de l'image de Batman. De, voilà. J'allais dire de Batman. Non,
de James
parce
Bond.
Parce que je pense à autre chose, c'est pour plus tard, j'ai une référence à Batman plus tard. Mais, non, de ce qui reste de James Bond. Oui.
Et c'est un film qui justement, oui, c'est ça, casse totalement ce personnage. On passe notre temps à nous rappeler qu'il est vieux, qu'il est incapable de faire ça, qu'on le prend par défaut. Et ça, je trouve ça intéressant. Et l'autre truc que j'ai à reprocher, c'est plus là pour le coup par rapport à la saga, même si c'est pas une saga dont je suis très fan, mais elle a une genèse, elle a une diégèse aussi, donc il faut la respecter. C'est de lui inventer des origines.
Oui, alors ça, tout le monde n'a pas été.
Voilà, et
super
le fait d'inventer
content,
des origines à un personnage parce que du coup, on lui définit une temporalité, on lui définit quelque chose de très précis, ça, ça m'a énormément dérangé. Dernièrement, j'ai été très rassuré quand c'était Danny Boyle qui devait faire le prochain et que Danny Boyle avait dit : si je le fais, je tue le personnage. Et comme ça, quand vous changez d'acteur, vous refaites toute une diégèse. Et là, j'étais d'accord, je me suis dit : ok, comme ça, on pourra dire c'est un Bond parmi tant d'autres, mais qui est défini avec un début et une fin, et ça pourrait être intéressant. Mais au final, ils veulent pas le faire. Et donc du coup, on lui invente des origines, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on changera de canon, on sera obligé de respecter ce canon-là. C'est pas logique, le côté très incertain de James Bond fait qu'on pouvait l'intégrer à n'importe quelle époque où le film était tourné. Et ça, ça me dérange énormément. Voilà.
La scène d'action finale, on parlait de scène d'action qui ne tue pas de civils. Là, là, on est au fin fond de l'Écosse, dans le domaine familial.
Dans un manoir.
Dans un manoir.
Très bon manoir, cela dit.
Qui prend cher. Et on voit, à un moment, on voit le nom des parents de James Bond sur une pierre tombale.
Mais ils s'appellent pas genre Marie et James ou un truc, enfin des noms
la
très
mère
très,
est française, ouais.
Très très basique, très oui. Passe-partout. Hein.
Oui, oui.
James c'est sa femme, non? C'est pas ça. Comme ça qu'il l'appelle.
C'est exactement ça.
Moi je l'ai pas vu donc.
Je l'ai pas vu. Alors je rejoins sur la destruction du personnage. On l'a dit, le mec est complètement à la ramasse, il rate les tests. Et il y a une opposition avec justement le méchant qui est un James Bond avant James Bond, qui lui par contre était un mec qui était plutôt réussi mais qui a été rejeté. Il y a aussi, c'est un épisode très personnel sur Bond, il y a aussi la relation entre Bond et M, et le méchant reproche, est jaloux de Bond pour la relation qu'il a avec M. Et il y a aussi un truc qui est représenté dans le film, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de cinéma dans ce film-là, dans ce James Bond, que dans le Avengers dont on a parlé par exemple.
Oui.
Ah, sur les situations, sur les mises en scène. James Bond c'est une ombre pendant tout le film, il est tout le temps, c'est tout le temps une silhouette. Quand il se bat, quand il est espion, on ne voit que sa silhouette. Quand il se bat en Chine, il y a les néons et on voit sa silhouette. Quand il court après, le méchant, lui-même, il est sombre. Et le méchant, il est blond peroxydé. Et quand on le met en prisonnier, il est tout clair, il est beige. Il y a une opposition tout le temps. Et James Bond est l'ombre de lui-même dans ce film.
Je me permets de vous conseiller les scènes de course en 1,5, c'est très drôle. On dirait du Benny Hill. Il y a notamment une scène où il glisse entre deux escalators en mode truc. Et en 1,5, c'est génial. Et Javier Bardem est génial. Les bons conseils de Tata Pomme. Regardez James Bond en 1,5. Mais ouais, Javier Bardem, putain, mais.
Par contre, ne regardez pas les scènes où il y a Javier Bardem en 1,5, hein, parce que.
Mais tu sais quoi, c'est le personnage qui me fait dire que peut-être je le reverrai à vitesse normale.
Mais c'est vrai que toutes ces scènes sont. Enfin, le personnage est exceptionnel et.
Mais et moi, avec il m'a le fait son. Beaucoup pensé au Joker de Dark Knight qui a été sorti quelques temps avant. Mais moi, ça m'a fait beaucoup penser à ce personnage de Joker un peu. Ça a été
moins
une grosse inspiration.
Moins de peinture quand même. Moins
oui, alors ouais, peut-être.
Quoique. Une seule, blond, enfin du jaune clair quoi. De
blond,
partout.
Mais quelques déformations enfin, qu'on voit.
Ouais, à peine. Hein. Ouais. C'était bien fait d'ailleurs.
Mais il a un côté, ouais, refait de la gueule quoi. Ouais. Qui joue vachement. Et le côté écorché de ce personnage qui justement ne comprend pas aussi pourquoi est-ce qu'il a été aussi lâchement abandonné. Voilà, tout son passif est hyper intéressant ce personnage-là, sa construction. Et même tout ce qui tourne autour de M, ça au moins là-dessus je rejoins, c'était très très bien.
Bon, allez, je le reverrai.
Moi j'attends quand même un James Bond où M est incarné par M quoi. Faut ça. Voilà, je t'ai interrompu pour
et
ça.
Et ce serait pas mal du tout.
Bon, il y a l'Aston Martin aussi avec tous les gadgets.
Ah bah ça, il y en a pas beaucoup, il a été très économe, même Sam Mendes de toute façon ne voulait pas de celui-là et finalement il a fait Spectre où il a fait que ça.
Non mais donc, ça c'est excellent, c'est-à-dire que on dit les gadgets c'est du vieux, c'est relégué au passé et on ne sort justement l'Aston Martin DB5 avec les gadgets, avec le siège éjectable, avec la mitraillette, avec tous les trucs, mais on les sort à la fin quand on part dans le passé, dans la nostalgie, c'est histoire de dire bon allez on ferme, on le fait pour le plaisir mais on arrête ça et on passe à du neuf. Et d'ailleurs aussi c'est assez bizarre parce que c'est un entre-deux cycles. On garde l'acteur, mais on finit un cycle avec M qui change, avec le passé de James Bond, et en même temps, on introduit des nouveaux personnages. On introduit Moneypenny, on introduit Q, et pour dire, on va continuer, on va faire quelque chose de neuf derrière. C'est vrai que c'est un épisode un peu entre-deux, on est un peu perdu sur cet épisode-là.
Ce que vous n'avez pas dit quand même, c'est que surtout la dernière partie du film, c'est juste la finalité finalement de. C'est un troisième Maman, j'ai raté l'avion.
Ah oui.
Oh, mais tellement.
Mais oui.
Parce que je crois que je l'ai dit quand je le commentais.
On dit qu'il n'y a pas de gadget, mais en fait, ils sont remplacés par la maison piégée. Il y a une séquence qui dure 200 ans où c'est juste Maman, j'ai raté l'avion, raccourci avec James Bond. Quoi. C'est le même personnage, très clairement.
Oui.
Mais en Écosse.
Il ne se met pas d'aftershave en hurlant.
Non, mais j'ai eu exactement la même réaction. Parce que donc je commentais à ceux qui jouaient ce que je voyais et c'est exactement ce que je leur ai dit.
Surtout en fois un et demi, quoi.
Ouais, mais non, mais voilà, ça fait encore plus. Maman, j'ai raté l'avion en fois un et demi. Cette scène, j'étais ravie de la voir en accéléré.
Allez, on a du retard sur la journée. Donc, Justin, est-ce que c'est un film qui vaut encore le coup aujourd'hui, 7 ans après? Oui, non?
Oui.
Oui.
Oui, carrément.
Mais l'arc donc, Daniel hein. Craig vaudra le coup, je Tout pense, le, ouais. une fois qu'il sera terminé, hors Quantum of Solace.
Oh non.
Et encore.
Non, Quantum of Solace, j'aime bien. Spectre, c'est pas.
Ah putain, Spectre, au moins, c'est un film de cinéma.
Oh,
bon, mais Quantum of Solace, il a une excuse.
Ah, il a une très bonne excuse, en effet. Mais bon, après, il faut juger
l'enjeu. Il a un mot de ses parents. C'était la grève des scénaristes.
Ah.
Ils ont donc, c'est ils ont pu.
Daniel Craig qui a écrit la moitié des scènes.
Quasiment une semaine avant le tournage. Non, oui, mais bon.
Et n'oublions pas que deux ans après.
Le soir, en rentrant dans sa caravane, il écrivait les scènes du lendemain.
Et deux ans après, sort le meilleur James Bond, Kingsman.
Qui renoue, tu sais, avec tout ce sur quoi ils essayent de. Il faut qu'on se détache de ça. Ouais. Nous, on y va en plein dedans. Ah bah oui.
Allez, il n'y a pas que les blockbusters dans la vie. Il y a aussi les films français. Alors, on a choisi un des gros succès de 2012. Je vais tenter de vous le faire deviner chez vous, dans votre maison, dans votre métro. Je vais essayer de vous faire deviner le titre. C'est une comédie adaptée d'une pièce de théâtre sur des Parisiens dans un appart qui s'échangent des dialogues truculents pendant 1h45.
De l'autre côté du périph.
Patrick !
Bon, ok, pour l'instant, ça aide pas beaucoup. Je vais lire la jaquette du DVD, ça va peut-être vous aider. Vincent. Non, je vais pas donner le nom des acteurs.
Le big deal. Non, c'est pas ça.
Vincent va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d'enfance. En attendant l'arrivée d'Anna, sa jeune épouse, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale. Mais quand on demande à Vincent s'il a déjà choisi un prénom, sa réponse plonge la famille dans le chaos.
Le dîner de con ?
Ah, pas. Alors, c'est cité en exemple sur la jaquette. Ah, hein.
Je pense que ouais, tu parles de quelqu'un, tu dis pour ceux qui ont aimé le dîner de con.
Mais ouais, c'est l'argument marketing.
Avec des rêves pareils. Ouais,
ouais.
Amélie Poulain.
Alors c'est un film avec Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles Berling, Judith Elzein et Guillaume de Tonquédec. Bon, ça parle du prénom d'un gamin.
Alors nous, on a la jaquette sous les yeux. Hein,
et vous avez la jaquette sous les yeux, c'est le prénom, vous l'avez deviné. Ne hurlez pas. Ne hurlez pas dans le bus, c'est bon, ce n'est pas la peine. Le prénom, est-ce que ça valait le coup de se prendre la tête dans ce dîner sur ce petit prénom-là?
Surtout qu'il existe des dictionnaires des prénoms.
Oui, bah ouais. Alors on va pas vous donner le prénom, évidemment.
Non, sinon ça gâche tout le film.
On va pas spoiler, c'est un peu l'enjeu du film, même si on s'en doute un peu quand même.
C'est Kevin.
Ah ouais, non,
tu
ça serait pire.
Tu peux ton fils Kevin. Non, on aime les Kevin. À tous
aime.
Les Kevin qui nous écoutent, on vous aime.
À ceux qui seront ministres prochainement. Parce que ça arrivera.
Mon grand-père.
Et la génération arrive.
Qui avait vu le prénom à sa sortie?
Tout le monde lève la main, c'est très podcastique.
Non,
Flavien, non.
Non,
moi non plus, je me respecte.
Tu l'as pas revu?
Très peu de films.
Je l'ai pas vu ni revu.
Qui commence?
Jamais.
Enfin, je l'ai pas vu.
Allez,
je
m'y mets. J'ai trouvé que j'ai pas spécialement aimé le film. On m'y a traîné parce que c'était soi-disant le film du moment, le phénomène à voir. Je crois savoir qu'il est adapté d'une pièce de théâtre et ça se sent vraiment, vraiment trop fort. Et c'est un petit peu le défaut principal de beaucoup de films français adaptés de pièces de théâtre.
C'est une pièce de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière qui
peut-être une pièce de Mathieu Delorme.
Qui sont aussi les auteurs de la pièce de théâtre et donc qui ont aussi réalisé et mis en scène le film.
Et c'est vraiment dommage. Les acteurs jouent quasiment comme s'ils étaient au théâtre, ce qui rend le jeu grotesque et énervant. Enfin, c'est...
Alors, mis à part Charles Berling, tous les acteurs étaient déjà acteurs dans la pièce de théâtre.
Voilà, donc ils auraient pu faire une captation filmée de la pièce, ça aurait rendu mieux, je pense.
Je suis d'accord. J'ai bien aimé le film à l'époque et là de le revoir en partie. Mais je pense que j'aurais. En fait, non, c'est pas je pense, je sais que j'aurais préféré voir la pièce. Je trouvais que ça gueulait beaucoup trop dans le film, c'était fatigant au bout d'un moment. Mais j'ai beaucoup aimé le film, sinon. Enfin, l'histoire, on va dire.
Je sais que Thierry est un gros fan du film.
Il est tellement rouge, il se retient, il n'en peut plus.
Est-ce qu'il s'inclut bien dans le MCU, ce film?
Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a intrigué pour qu'il soit dans la sélection, mais...
Non. Non, moi je voulais mettre plein de flops et des mauvais films, hein, donc non.
Ouais, mais il a fallu faire un choix.
Ah non, moi c'est un de mes films préférés, ouais. Mais vraiment, je le connais très 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 bien, je l'ai vu énormément de fois, et chaque fois que je l'ai montré à quelqu'un, ça a été un franc succès. Donc je ne comprends pas. Alors moi le reproche du théâtre filmé, c'est quelque chose qui me dérange pas parce que c'est quelque chose que j'ai toujours retrouvé dans les vaudevilles. Donc du coup je l'ai jamais spécialement reproché puisque je me suis toujours dit c'est une norme dans le vaudeville. C'est quelque chose que par exemple beaucoup de gens le comparent au dîner de cons où ils trouvent que le dîner de cons est brillant et pas celui-là. C'est exactement la même chose, hein. C'est exactement filmé de la même façon, joué de la même façon. Donc en soi, oui, une captation de la pièce aurait peut-être été plus pertinent et ça aurait sûrement été tout aussi plaisant. Mais voilà, j'ai toujours vu des vaudevilles de cette manière-là, donc ça ne m'a pas forcément paru troublant. Ouais, non, après, voilà, j'adore cette pièce parce que je la trouve écrite, mais à la perfection de bout en bout. En fait, pour moi, il n'y a pas une ligne au-dessus de l'autre. Chaque dialogue est hyper pensé, tout est super bien écrit, tout se répond. Il n'y a jamais un moment où je me dis, ce dialogue, si on le retire, ça passera pareil. Non, vraiment, chaque mot est pensé. Enfin, en tout cas, comme ça que je l'ai ressenti dans l'écriture. Et je trouve que justement, bon, le fait que les acteurs l'aient joué pendant des années avant, ça se ressent aussi. Et ça fait que tout le monde est hyper à l'aise. Même Berling, ben, au final, se mêle très très bien à la danse, quoi. Et ouais, enfin, bon, voilà, peut-être que ça surjoue, mais en tout cas, c'est pas dans un surjeu qui m'a dérangé. Moi, ça m'a vachement charmé, quoi.
Alors, tu as dit que c'était une pièce que tu aimais beaucoup, mais du coup, le film, t'en penses quoi ?
J'ai dit que c'était une pièce que j'aimais beaucoup ?
Ah oui.
Ah ouais, je me suis trompé parce que je me suis trompé. Non, parce que j'ai pas vu la pièce, non, j'ai vraiment découvert avec le film pour le coup.
Ah non, tu ne m'as pas fait le même coup qu'Edmond, ça va. Non, alors parce qu'Edmond...
Je t'aurais jamais refait ça une seconde.
Je dis ça, alors, ceux qui écoutent le certain la chose, ceux qui sont au courant, donc Thierry avait vu Edmond, il n'avait pas aimé, il m'a traîné voir le film. Voilà, je lui en veux encore pour ça.
Tu souffriras avec moi.
C'était surtout quand j'étais...
Mais du coup, tu l'as vu deux fois ?
Non, j'ai vu la pièce.
Ah !
J'ai vu la pièce, j'étais totalement horrifié parce que je comprenais pas pourquoi ce truc-là avait eu cette Molière, et j'étais mais c'est pas bon. Et après, je vais voir le film, et au moment où lui me regarde au bout d'un quart d'heure, mais c'est nul, je fais, ouais, je sais, ouais.
C'est juste pour ça. On est pas bien, là ?
Ça, les amis.
Avec des amis comme ça.
Ah, on n'a pas grand chose à dire sur les films français.
Ah,
hein.
Sur les films français, non, c'est beaucoup plus compliqué.
Moi, je veux juste dire que, au moins, ça montre une fois de plus que Patrick Bruel est meilleur devant une caméra que derrière un micro.
Alors, c'est exactement ce que j'allais dire. J'aime beaucoup Patrick Bruel en acteur. Voilà.
Si on doit aller sur Bruel, en tant que chanteur, enfin, il a une voix superbe et j'aime pas ce qu'il en fait. Et c'est dommage. Ça m'énerve des gens qui ont un timbre particulier et qui font ça, quoi.
Patrick Bruel n'est pas un chanteur, c'est un conteur. Si tu le fais chanter, ça marche pas. Par contre, si tu racontes une histoire, là, ça marche.
Mais oui, non, en tant qu'acteur, en fait, il y a toujours la team anti-Bruel à cause de son côté chanteur. Et chaque fois que je leur ai montré ce film-là en leur disant, tiens, un contre-exemple, et à chaque fois, c'est le syndrome Jared Leto. Si tu leur montres un film, ils font, ah oui, en fait, le mec est bon. Là-dedans.
Un peu le Jared Leto français, quoi.
Il sera ravi, on lui dira.
Faut le dire à Jared.
On le transmettra.
Je sais quoi, c'est pas dire qu'à qui.
Allez, il nous reste encore un peu de temps. Je vois que ça tape à la porte derrière pour le prochain épisode. Non, c'est pas vrai, c'est une
image.
Non,
mais c'est moi le prochain épisode, donc de toute façon, je te taperai directement dessus.
Voilà, tu me... voilà. Ah, c'est toi qui me fais du pied tout à l'heure, alors.
Si t'appelles des coups de pied, du pied, oui, c'est ça. Donc vas-y.
Mais du coup, c'est l'heure de la roco. Quels sont les films qui vous ont marqué en 2012 qu'on n'a pas cité ? Est-ce qu'il y a un film qui vous vient à l'idée, que vous avez envie de revoir, que vous avez vu, que vous aimez particulièrement, ou au contraire, que vous avez particulièrement détesté ? Ça marche aussi. Vous pouvez nous parler d'un film de votre choix de 2012. Qui veut commencer ? Allez, Shibani.
Alors, j'aurais parlé de Twilight. Non, c'est faux.
Ah
c'est
2012, ouais,
ça, c'est vrai ?
Génial.
Je sais pas, je le vois dans la
partie
liste.
Partie 5,
je sais
plus quoi, ouais, c'était déjà...
Ouais, c'est deuxième partie du chapitre 5. Ouais.
Ah, d'accord.
Non, ce serait plus The Dark Knight Rises. Toute la trilogie, si j'ai pas de bêtises. Dark Knight, j'ai beaucoup aimé.
Rises, ouais.
Voilà. Alors, je sais plus Rises, lequel c'est...
C'est le moins bon des trois.
C'est le troisième, ouais.
C'est le dernier.
Mais j'ai beaucoup aimé les trois, donc je dirais que celui-ci, je l'ai bien aimé aussi.
Avec la fameuse mort de Marion Cotillard.
C'était celui-là. D'accord, ok. Donc oui. Oui, non, je confirme. Bon, évidemment, avec cette scène, il faut bien mourir d'une manière ou d'une autre.
Enchaîne là-dessus. Faut bien mourir.
Alors moi, j'en ai pas vu beaucoup des films cette année-là parce que le cinéma, c'est ultra cher et que j'avais un salaire qui était pas foufou. Donc j'ai pas eu à chercher longtemps. Et celui qui restait, c'est Moonrise Kingdom.
Ah oui.
Mais non.
Que malheureusement... Mais si.
C'était le mien. Hein.
Ah, j'avais aussi. Alors.
C'est vrai. Alors, il y a tellement de films qui sont sortis cette année-là. Je me suis dit, ouais, celui-là, il y a personne qui va y penser. J'ai pas pu le revoir depuis, donc j'aurais du mal à en parler en profondeur. Mais je me souviens qu'en sortant de la salle, j'étais sur un petit nuage. J'étais allée le voir avec mon frère, et je sais pas, c'était un moment de bien-être. C'est agréable de sortir d'une salle de cinéma en se disant « la vie est belle, il fait beau ». Je viens de passer un bon moment.
Même voilà. Si les films de Wes Anderson, alors celui-là est sans doute un de ses plus positifs, mais il y a toujours un élan de mélancolie derrière, assez fort.
Ouais, mais voilà, moi j'ai ce souvenir, plus que de l'histoire en elle-même, j'ai ce souvenir de sortir de la salle avec une vraie sensation de bien-être.
Je te rejoins carrément. Moi j'ai découvert Wes Anderson avec Moonrise Kingdom. Bon, je me suis enfilé ces films dans la semaine, je pense.
Ouais, pareil, mais, exactement pareil.
Voilà quoi, je suis sorti de là, mais... Qui est ce Tom ? Pourquoi je ne le connaissais pas ? Et pourquoi est-ce qu'il est aussi merveilleux qu'il m'aime autant, moi cinéaste ? Enfin, moi cinéphile, pardon. Je veux voir tout ce qu'il a fait. Et bah, voilà, ça n'a pas loupé. Et c'était très bien, quoi qu'il arrive. Et je pense que le premier, en plus, film qu'on découvre de Wes Anderson et tout sous, celui qui nous met la plus grosse claque, donc celui-là, il est très très bien pour ça.
Ouais, moi, j'ai exactement le même parcours. Moonrise Kingdom en 2012 au ciné. Et puis après, j'enchaîne avec tous ces films. On peut lui reprocher quand même un certain formalisme, un certain abus dans la mise en scène, dans la symétrie et tout. Je comprends que ça puisse casser les pieds en termes de réalité, quoi. Enfin, de cinéma vrai. Moi, j'adore ça, mais c'est un truc qu'on peut lui reprocher, que je peux entendre. Du coup, moi, au lieu de Moonrise Kingdom, je vais parler de Holy Motors, de Oscar Axe, qui est aussi le film par lequel j'ai découvert Carax, qui est un film avec Denis Lavant, où il y a du Mansé à la fin.
Attends, Denis Lavant et Léo Carax ont fait un film ensemble ?
Bah,
je suis un peu surpris.
Incroyable, hein. Mais ouais, donc un film assez incroyable d'un point de vue de la mise en scène, de la réalisation, de la photographie, des moments qui te restent dans l'esprit par des scènes complètement folles. Là aussi, il y a une dimension presque théâtrale par moment, des films à sketch presque. Enfin, les moments où il se met à chanter en jouant de l'accordéon, c'est complètement fou. La fin sur Revivre, où il est dans son taxi de Revivre de Mansay, c'est complètement fou. Enfin, il y a tellement de scènes qui sont immédiatement marquantes, que tu te dis waouh, devant quoi je suis passé. Ça fait pas le box-office, certes, ça fait un peu aussi ciné pour les cahiers du cinéma. C'est aussi un truc qu'on peut reprocher éventuellement. Moi, je sais que la façon l'avant il joue dedans, c'est assez marquant, quoi. Donc voilà,
je te rejoins carrément là-dessus, mais dans le sens contraire. Moi, quand je suis sorti du film, je l'ai détesté. Ah ouais. Je l'ai rejeté en bloc parce que souvent, un film ça passe ou ça passe pas. Oui, mais oui. Tu vois, là, on en parle maintenant, c'était il y a 7 ans et je me rappelle de quasiment tout le film.
Ouais, ouais.
Donc, ouais, c'est un film qui marque, c'est fou.
Et je mets juste un petit mot sur Les Bêtes du Sud Sauvage aussi, regardez-le. Voilà.
Aymeric ?
C'est vraiment dur à de choisir, il y a tellement eu de bons films cette année-là. Je vais en citer quelques-uns. Expendables 2, John Carter, Abraham Lincoln, Chasseur de Vampires.
Les meilleurs.
Voilà. Non, blague à part, il y en a 3 que j'aimerais citer. Argo.
Oui.
Bon, je crois qu'il n'y a pas de débat, il était vraiment très très bien.
J'ai détesté Argo.
Ah.
Je vous le dis, je sais que je suis tout seul. Mais
tu es vraiment très seul.
Je comprends qu'on puisse le détester.
Je suis extrêmement seul, mais toute ma haine se concentre dans un point, c'est quand ils doivent s'échapper au niveau de l'aéroport et qu'on voit ce putain de plan, genre la voiture ne démarre pas. J'ai cru que j'allais péter un câble dans le cinéma.
L'enjeu qui est de trop, on sait très bien que de toute façon
et
il sert à rien.
Il y a zéro enjeu parce qu'on sait comment ça va se terminer en fait. Ça m'a terrifié ce film.
Ah mais je l'ai vu en fait.
De façon mauvaise, c'est-à-dire vraiment okay. J'ai pas. En fait, il a voulu tellement montrer l'enjeu.
Faire monter la pression alors qu'il n'y avait
fait,
pas besoin.
Pas, voilà.
C'était déjà suffisamment bien.
Chez moi, c'est pas passé du tout. Bien. Voilà, je t'ai interrompu, mais continue.
Un autre que j'ai beaucoup aimé, c'est Chronicle.
Josh Trank.
Ouais, qui est vraiment très bien. Oubliez ce qui est son échec sur les.
Il a fait ce qu'il a pu.
Fantastique, le pauvre. Bah, il a fait ce qu'il a pu. Il a fait ce qu'il a fait, et puis après, le studio a tout refait.
Fantastique, c'est
tout mal fait.
Des films maudits.
Oui, oui.
Chronicle, super film de super-héros.
Ouais, très original pour le
très, coup. Très bonne origin story de super-héros. Et mon coup de cœur vraiment, c'est The It Girls, Pitch Perfect en version originale d'ailleurs. C'est vraiment pas le genre de film que je regarde, c'est un film musical, je déteste les films musicaux. C'est une comédie avec du lourd, du gras, du vomi, mais pourtant, j'ai trouvé les arrangements a cappella plutôt bien réussis, même si c'est pas du vrai a cappella. Donc le film sur les... club de le glee club d'une université, les concours entre les glee clubs d'université. Voilà, le film en lui-même, je m'attendais pas à ce qu'il me plaise, il avait tout pour me déplaire et il m'a plu, donc c'est pour ça que je le recommande.
Est-ce que dans l'assistance, je me tourne vers la foule, est-ce qu'un spectateur veut donner un reco ?
À part ne pas avoir aimé Argo.
Devant, là.
Oui. Non, je vais citer juste les 5 légendes, parce qu'on en parle plus, qui est en anglais Rise of the Guardians. C'est donc un film d'animation de DreamWorks. Et comme DreamWorks, c'est souvent une fois sur deux, c'est nul. Et voilà, ben c'est la fois où c'est très bien. C'est un film avec des. C'est un film de super-héros sur les contes pour enfants, en fait, de Noël notamment. Et c'est vachement bien, montrez-le à vos enfants ou regardez-le vous-même.
Thierry.
Moi, je vais avoir deux recos, une visuelle, donc ça fait pas forcément autant de dessus, puisque même il n'y a pas tant de choses à dire dessus, mais si vous ne l'avez pas vu et que vous avez envie de voir du très très beau, il faut le regarder. C'est l'Odyssée de Pi de Ang Lee, qui était juste superbe.
Je suis mitigé.
Tu es mitigé, mais tu n'as pas trouvé ça très beau ?
Peut-être que c'était trop long.
Ah oui, c'est très long. Mais c'est très contemplatif tout du long. C'est, ouais, c'est pas donc, une différence palique non plus.
Je
mais...
pense que voilà, il y a eu un moment où juste j'avais envie que ça finisse.
Essaye avec ton expérience de James Bond de faire la même quand tu joues à Apex en 1,5 et 500.
C'est un film qui m'a marqué dans un sens, mais qu'il y a eu un moment où je me suis dit bon, allez, maintenant faut que ça s'arrête, quoi. C'est trop long, stop.
Ah, c'est une errance après, hein. c'est la volonté du film. Et ouais, non, et le deuxième, alors ça, c'est un film, je suis. Mais. Horrifié qu'il ait été autant oublié, en fait, c'est Cloud Atlas.
Ah, mais oui!
Que j'aime d'amour.
Il s'est planté cette année-là.
Il s'est planté, mais de toute façon, il était. Enfin, malheureusement, en fait, moi, quand je l'ai vu dans la salle, je me suis dit qu'il est destiné à se planter. Tu vois, les gens, ils étaient perplexes, il y a des gens qui partaient, les gens comprenaient rien.
Et moi, c'était. À The Fountain.
C'était une baffe tout du long, quoi. Et je l'ai revu pas mal de fois parce que c'est un film, si tu commences à accrocher, t'as envie de le décortiquer. De comprendre tous les tenants et aboutissants, d'analyser chaque plan et. Et il est dingue pour ça, quoi. Donc, il faut réhabiliter Cloud Atlas.
Eh bien, ça commencera par ici. Voilà. Et toi ?
Des frères et sœurs Wachowski, c'est ça ?
Des sœurs Wachowski.
Des sœurs Wachowski. Mais oui, je sais plus, mais elles étaient non.
Des sœurs Wachowski. Des sœurs Wachowski.
Bon, des Wachowski.
Les Wachowski.
Les sœurs Wachowski. Voilà. Ouais. Ouais.
Les deux Wachowski.
Alors, t'as pas dit Ted 2, du coup ? Non, t'as pas dit Ted.
Non, j'allais pas dire Ted, non. C'est fun, mais bon, bah, peut-être pas non plus.
Il y avait Hunger Games cette année aussi.
Il y avait Hunger Games cette année aussi.
C'était bien d'obesque.
C'était pas bien.
Moi, c'était Battle Royale en moins bien.
J'ai un avis sur Hunger Games, si vous voulez, si ça vous intéresse.
C'était cool ou pas ?
Si vous trouvez que c'était pas assez bon, le truc. J'ai un avis. Hunger Games, quand je l'ai vu, on m'avait dit « Ouais, vas-y, tu verras, c'est génial, machin et tout. » Donc je l'ai vu. J'ai pas détesté, mais je trouvais qu'il me manquait un truc. Il y avait pas assez de comment dire, l'histoire derrière, le background était pas assez développé. Et on m'a dit « Non, mais... »
Ou trop, parce non, que sinon tu peux le faire en truc totalement abstrait et dans ce cas-là ça peut rendre un truc bien, mais tu fais pas entre les deux.
En ce qui me concerne, il manquait un truc. Et on m'a dit « Mais c'est tiré d'un bouquin, lis le livre. » Et des gens de mon âge m'ont dit, donc j'ai un peu plus de 30 ans, m'ont dit « Mais si, le livre il est génial, tu verras, c'est encore mieux, machin. » Donc je suis allée acheter le livre.
Ouais.
Quand je l'ai vu, franchement, je m'attendais, la manière dont on m'en avait parlé, à un bouquin type... 1984, type le meilleur
là.
Des mondes, etc.
Non, c'est bien vendu.
Donc déjà, quand je l'ai trouvé au truc jeunesse, je me suis dit, bon, pourquoi c'est rangé là ? C'est des cons. Et je l'ai lu. En fait, c'est le film, mais avec des mots sur un papier. Il n'y a rien qui diffère des deux. Et du coup, Hunger Games...
Du coup, c'est une très bonne adaptation.
En fait, j'ai l'impression d'avoir mangé un bon truc, mais ça manquait un peu de poivre et puis il n'y en avait pas assez. J'ai faim.
Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas lu le livre Avengers ?
Non.
Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas lu l'adaptation en livre du scénario du film ?
Ben peut-être, on va savoir. Franchement, je me suis posé la question.
Bon bref, non.
J'ai changé d'amis depuis.
Allez voir Battle Royale, le premier, le deuxième n'existe pas.
Non, il n'existe pas. Oui.
Et toi Thomas, un film ?
Alors, moi j'ai hésité, parce que s'il y avait un très mauvais, j'aurais parlé de Battleship avec Rihanna. C'est très mauvais.
Bien vu.
Oui. Dans les films discutables, quand on a préparé, j'avais vu qu'il y avait Projet X, qui moi m'avait marqué à l'époque. Non mais on parle de found footage, on parlait de Chronicle en found footage, il y avait cette mode là.
À l'époque tu avais 13 ans.
Dans ma tête oui.
Mais même la bande-annonce était trop longue de ce film.
Tu m'as quand même traîné devant pour le revoir et bon j'ai admis que c'était quand même plus sympa que le souvenir que j'en avais.
Voilà, bon, mais c'est un film qui a été oublié.
Et comme donc... Cloud Atlas, c'est un peu le Cloud Atlas des ados.
Oui, c'est ça. Ouais, on va peut-être pas le mettre au niveau de Cloud Atlas. Il est... Ouais, d'accord. Il y a
Cloud Atlas,
pas le...
c'était peut-être bien quand même, non ?
Donc oui, c'est l'histoire d'une fête qui dégénère. C'était la fête, le mec il fait son anniversaire et puis son pote met l'annonce de l'anniversaire sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables à l'époque, ce qui fait qu'il y a 2000 personnes qui viennent à sa baraque.
Et ils font du mal aux chiens.
Ouais, aussi. Et ils mettent un nain dans un four, il y a des nichons partout. Et voilà, du coup, je me souvenais pas de ça. Et quand je l'ai revu, ouais, je me suis dit, tiens, c'est une fête américaine, c'est sûr.
Ah oui, c'est purement américain.
Donc voilà, donc c'est à peu près la fête dont rêvent tous les ados américains. Et beaucoup d'ados français aussi. Mmh. Sauf peut-être la fin.
Oui, forcément. Hein.
Non, sinon, plus sérieux, non, s'il y a une reco que je ferais, c'est Zero Dark Thirty quand même.
Oh, je l'ai vu cette année. Et Non.
Il a mal vieilli, ouais.
C'est même pas ça, c'est que bah, pour moi déjà Catherine Bigelow.
Moi c'est le film que je veux revoir. J'ai vu à l'époque, je l'avais apprécié, je voudrais le revoir.
Ah non, les films pro-américains de Captain Bigelow, moi j'ai vraiment. Même si on nous dit que celui-ci était quand même plus modéré, qu'il essaye de traiter de ça. Bah, quitte à parler d'un film qui parlait de ce conflit-là, bon, c'est pas exactement pareil, j'aurais tendance à plutôt préférer Redacted de Brian De Palma, que je trouve bien plus brillant sur le sujet, que là, juste, on va te montrer toute la traque de Ben Laden avec une scène d'une demi-heure dans le noir total avec juste les effets des néons pour te dire à quel point c'était réaliste. Ouais,
ça
bon,
fait
quoi.
Des économies.
Dire à la grande limite, t'as envie de mater de la torture américaine, tu mates les saisons de 24, hein, c'est tout aussi puritaniste, au moins.
C'est ouais, mais c'est plus court, là.
Ouais, c'est vrai.
C'est quand même plus court.
Mais toi, tu le recommandes quand même.
Bah, j'ai envie de le revoir. Voilà, je me dis, c'est un film qui a marqué à l'époque.
Tu le recommandes à toi-même.
Je me le recommande à moi-même, voilà.
Eh bien, bon film.
Voilà, je sais que je vais être obligé de me taper Prometheus un jour pour me faire tous les aliens. Mm.
Ce sera sans moi.
Il était pas si mal.
Il est sur la liste, hein,
2002. Il est allé voir Edmond. Edmond, ouais. Alors tu vas voir Prometheus.
Tu crois que j'en subis pas, mon nom?
Chacun sa croix.
Est-ce que alors juste un petit test parce que est-ce que quelqu'un se souvient de Jason Bourne l'héritage?
Pas vu.
Bah non, comme tout le monde.
Ouais.
Avec le mec qui tire des flèches dans Avengers.
Et que tout le monde a oublié dans Avengers. Donc c'est ça.
En fait,
donc
c'est
juste
Jeremy vérifier. Renner qu'on oublie. Déjà qu'on le confond avec Jeremy Renier, tu vois. Donc bon,
il se ressemble un peu. Hein.
C'était ce temps de réflexion. Merci
un
Flavien.
Podcast de 7 ans.
Un podcast de 7 ans. Non, on est sous l'heure. On est au niveau de l'heure. Avec ben, Flavien. Merci Flavien.
Avec plaisir.
Merci Aymeric.
C'était un plaisir aussi.
Merci Thierry.
Merci Toba.
Merci Shibani.
Shibani.
Chimène Badi.
Avec plaisir.
Chimène Badi. Non,
si,
Chimène
non, Badi. Non. Putain, d'enfoiré.
T'aurais pas hésité, j'y aurais pas pensé.
Chimène Badi. Juste... On m'appelle Shibari des fois, mais c'est pas la même.
Ah, c'est pas pareil.
Merci Pomme.
Mais merci à toi.
Et merci au public. Merci Septem. C'était un plaisir de présenter cette émission à votre compagnie. Merci à Podcastéo pour l'organisation de Paris sous les pods. Ça représente des efforts colossaux, une implication de chaque instant. Si, si, je vous jure. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la sur les réseaux sociaux et parlez-en autour de vous. Et qui sait, peut-être que nous retenterons l'expérience un jour. L'année
oui
prochaine.
Bah oui.
Du coup, les films de 2013.
Et du coup, les films de 2013. Ah. Oh.
Donc du coup, peut-être que j'aurais pas vu Snowpiercer pour rien.
Et du coup, t'auras pas vu. Ouais, alors au départ, on voulait mettre Snowpiercer parce que sur un classement, il y était. Et en revérifiant, on s'est aperçu qu'il était sorti l'année d'après.
Sauf que je venais de le voir et qu'en plus, j'ai pas aimé le film. Alors j'étais dégoûté.
C'est marrant. C'est,
en fait, non, on a changé l'année juste parce qu'on voulait que personne n'en dise du mal.
C'est peut-être à cause de Snowpiercer que j'ai fait Skyfall en 1,5.
Vous avez piraté Allociné.
Un mal pour un bien, finalement.
J'imagine pas tout ce qu'on peut faire pour Snowpiercer.
En attendant, je vous invite à écouter tous les podcasts enregistrés par Paris sous les pods, ainsi que les podcasts des différents intervenants. Vous allez voir, il y en a plein de bien, il y en a pour tous les goûts.
Et il y en a quelques-uns qui sont pas bien.
Ouais, mais on dira
on
pas
vous laisse deviner.
Il faut tous les écouter pour les trouver. On vous dit au revoir, à très bientôt, à l'année prochaine pour Paris sous les pods 3.
Bisous, bisous.
Et ciao, ciao. Bisous, bisous.
Des poutous.
Bisous, bisous.